Bonjour Patrick Madiano.
Bonjour Patricia Martin.
C'est un privilège, je dois dire, et un bonheur de vous rencontrer, en plus chez vous, nous sommes ici dans votre bibliothèque, parce que je ne sais pas si c'est une souffrance pour vous que de rencontrer des journalistes et de parler d'un livre qui vient de sortir, si c'est un passage obligé, en tout cas vous vous y pliez avec beaucoup d'élégance. Vous n'aimez pas ça ?
Non, mais ça, si, parce que ça me permet peut-être d'avoir une, comment dire, quand on écrit un livre, évidemment, on est un peu opaque à ce qu'on écrit, et ce qui est assez émouvant, c'est de pouvoir, pas d'en parler, mais que les premiers lecteurs qui, on est un peu inconscient, on ne sait pas très bien ce qu'on a écrit. Alors, ce qui m'émeut toujours, c'est d'avoir une vision extérieure à quelque chose dans laquelle on est trop enfoncé. Enfin, on se rend plus compte à la fin. Donc, c'est toujours enrichissant pour moi d'être confronté avec les premiers lecteurs, enfin, du livre.
Quand on dit Patrick Modiano n'est pas bavard, il n'aime pas parler, il cherche ses mots, il finit pas ses phrases, ça vous agace, ça vous paraît vraiment, vous êtes extérieur à ça, vous y êtes étranger, ça vous fait au contraire, ça vous fait sourire, ça vous amuse.
Oui, ça me fait sourire et ça m'oblige à me demander pourquoi. En fait, la manière un peu bizarre que j'ai de parler, c'est en fait, j'ai réfléchi, c'était peut-être lié à une enfance où, enfin, c'était pas simplement moi, mais d'un ordre général, où on laissait pas tellement parler les enfants, on les écoutait pas. Et dans mon cas, c'était peut-être encore plus fort. Enfin, oui, j'avais l'impression qu'on me laissait pas parler, qu'on m'écoutait pas, qu'on me grondait pour des choses que je n'avais pas faites. Donc, quelquefois, je me dis, c'est peut-être là où j'ai peut-être un peu hérité cette espèce de manière un peu bizarre de parler, comme si je parlais dans des intervalles très courts, enfin, ou comme, enfin, c'est aussi assez difficile parce qu'évidemment, quand on écrit, quelquefois, c'est une activité très lente, très où on rature tout ça. Alors peut-être que ça déteint sur cette manière de parler où j'ai pas toujours l'impression de trouver le mot juste. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'hésitation, en fait.
Vous avez peur de dire des bêtises?
C'est pas, peut-être pas de dire des bêtises, mais de pas trouver le mot juste et quelquefois de brusquement de plus avoir de vocabulaire, ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui écrit, de pas arriver à trouver le mot, non seulement le mot juste, mais même le, oui, d'être peur oui, d'être devenir brusquement aphasique. Mais ça, c'est peut-être un lié à l'écriture, c'est-à-dire où il faut toujours rayer, où le premier jet n'est jamais le bon. Enfin, toujours des travaux de rectification, et ça déteint peut-être sur la manière que j'ai de parler, en fait.
Alors, ce qui est très particulier avec vous, Patrick Modiano, c'est qu'on n'a pas besoin, finalement, pour en parler, de raconter l'histoire de vos livres. C'est vrai encore dans Le Café de la Jeunesse Perdue, donc le dernier en date. Ici, c'est une jeune femme qui est observée de biais, qui est suivie, qui est approchée, qui est aimée par des hommes et aussi par une femme. Elle est différente des autres et vous écrivez cette phrase « D'où venait-elle avant qu'on lui ait donné son prénom ?» Est-ce que c'est une question que se pose l'auteur à partir de son personnage ?
Oui, c'est une question que je me pose souvent. Évidemment, pas tous les romanciers, parce que quelquefois, ils ont une manière beaucoup plus, comment dirais-je, structurée de voir les choses comme ça. Mais moi, c'est toujours l'impression que j'ai. J'ai l'impression que quand je commence à écrire un livre, oui, ces personnages, enfin, c'est, oui, disons, personnages sortent du néant, en fait. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que je me trouve peut-être dans la même situation que le lecteur quand il commence le livre, c'est-à-dire je ne sais rien d'eux, en fait. C'est au fur et à mesure que j'écris où je, où les choses se précisent, mais au départ, je sais rien d'eux. Donc, c'est un peu comme le lecteur. Enfin, c'est ça peut-être qui donne une espèce de, comment dirais-je, de flottement et de. Oui, une espèce de démarche particulière, c'est-à-dire de ne rien savoir de ces personnages au départ, et même les choses s'éclaircissent un peu au fur et à mesure que j'écris mon livre, mais j'avance à l'aveuglette, même vis-à-vis des personnages, ou des. Je ne sais rien d'eux, enfin, c'est ça qui est. Enfin, je suis obligé d'écrire, oui, de continuer d'écrire. Alors évidemment, quelquefois, c'est un peu embarrassant parce que quelquefois j'ai l'impression de faire fausse route. Alors il faut continuer, tout ça. Enfin, c'est une démarche un peu à l'aveuglette, en fait.
À partir de quel moment est-ce que vous l'avez appelé Lucky?
Oui, en fait, c'est des hésitations, c'est ça qui est, c'est des détails comme ça où dès le départ, il faut que je sache à peu près, il y a des petites choses ponctuelles comme ça, de trouver la première phrase ou de trouver le nom. Alors, quelquefois, je tâtonne pour un simple prénom comme ça, il y a plusieurs solutions, je fais des listes, j'essaye de, c'est comme si on tâtonnait, on cherchait, oui, des listes, des noms, des prénoms, et tout ça. Et puis finalement, oui, à la fin, oui, il faut choisir le prénom. Et là, déjà, on voit mieux par des petits détails matériels, on voit mieux le personnage une fois qu'on a trouvé le prénom, en fait.
Comment est-ce que vous vous préparez à l'écriture? Vous lisez, vous rêvez?
Oui, ça démarre toujours avec une. Oui, il y a bien sûr une rêverie initiale, mais qui n'est pas très précise. En revanche, ce qui est déterminant, c'est qu'il faut essayer de trouver une première phrase, c'est-à-dire, comme j'essaye de comparer, comme quelqu'un qui. Un chanteur ou qui essaye de trouver. Qui fait des exercices de voix pour trouver le ton. Alors, c'est ça le problème, c'est de trouver une première phrase, et souvent c'est compliqué parce qu'on commence quelque chose, puis il faut rayer le paragraphe. Enfin, tout ça est très chaotique, mais une fois qu'on a la première phrase, on a déjà le. On peut alors commencer d'une manière très lente à continuer, mais enfin, la première phrase, c'est ce qui donne le ton, en fait. C'est ce qui vous aide après à. Et c'est difficile à expliquer parce qu'en même temps, je ne sais pas très bien où je vais, mais c'est déjà quelque chose d'un peu ferme à quoi je m'agrippe pour continuer, en fait.
Est-ce que ce serait la même chose pour les titres? Vos titres sont magnifiques. Il y a celui-ci qui est donc un emprunt dans le café de la
Oui.
jeunesse perdue, mais il y en a d'autres. Bon, évidemment, la place de l'Étoile,
Oui.
rue des boutiques obscures, Villa Triste, Dora Bruder. Qu'est-ce que c'est beau!
Oui, la plupart du temps, j'ai besoin aussi, comme de savoir quelle est la preuve, d'avoir le titre avant même d'avoir écrit le livre, ce qui est curieux parce que je ne sais pas vraiment ce que va être le livre, mais le titre m'aide, comme la première phrase, à donner une tonalité générale, mais sans savoir très bien de quoi il va s'agir, mais ça donne une sorte de lumière, enfin une tonalité où je ne sais pas très bien ce qui va se. Mais il y a quand même une indication comme ça de lumière, de tonalité qui va m'aider à dans quelque chose qui reste encore très flou, en fait.
Ce qui ne l'est pas flou, c'est l'amour que vous portez à Paris, à la ville. Alors c'est une ville à la fois très réelle, très topographique, avec un plan à la main, avec la Seine qui est une démarcation, avec des rues qui montent et qui descendent. C'est aussi évidemment une ville imaginaire.
Oui, c'est-à-dire que c'est évidemment c'est des choses très précises, des rues, même des immeubles ou des porches, des cafés, tout ça très précis, presque comme si on suivait une carte d'état-major. Mais évidemment, on est prisonnier évidemment des premières sensations qu'on a éprouvées pour une ville, c'est-à-dire évidemment les premières sensations que j'ai eues de Paris dans mon enfance ou dans ma prime adolescence, c'est des choses qui m'ont marqué d'une manière très profonde. Mais comme ce Paris-là a plus ou moins disparu, la ville est devenue totalement imaginaire, j'étais complètement intériorisé, et elle a fini par devenir imaginaire et presque intemporelle. En fait, elle est passée dans une autre, comment dire, dans une autre dimension. Alors, ce qui fait que c'est pas du tout une ville que j'essaye de ressusciter, un peu comme dans des photos de Douaneau. C'est une vie qui est totalement, qui est devenue totalement imaginaire, qui a basculé dans une autre dimension. Enfin, et même quelquefois quand je, alors il m'arrive quelquefois de par des points de détail qui peuvent rappeler d'une manière très précise ce Paris qui a disparu. Par exemple, une manière de formuler les numéros de téléphone comme Auteuil 2830. Mais même ça, comme ça n'existe plus et comme je suppose que des gens de 20 ans ne se doutent même pas que les numéros de téléphone étaient comme ça, la sonorité Auteuil 2830 ou je sais pas, ou Odéon 2850, ça devient presque poétique, ça devient une sorte de sonorité, ça devient complètement imaginaire en fait. Bien que ça rappelle quelque chose de très précis, ça devient totalement imaginaire, comme des syllabes poétiques en fait.
Vous aimez ce qui est à la, je parlais de la Seine tout à l'heure, ce qui est à la lisière, ce que vous appelez les zones neutres, les zones intermédiaires?
Oui, j'ai. C'est peut-être parce que dans certaines périodes de ma vie, oui, quand j'étais très jeune, je me retrouvais souvent dans des zones un peu périphériques de Paris. Mais ce qui est étrange, c'est que même dans des quartiers du centre ou même des quartiers qu'on appelle résidentiels, comme le 16e, où il y a tout. J'avais toujours remarqué quand j'étais plus jeune qu'il y avait des zones qui ne correspondaient pas au quartier dans lequel elles étaient. Je les appelais quand j'étais plus jeune ou les zones neutres, comme le personnage du livre, parce que c'était des zones, des endroits qui avaient l'air d'être détachés du quartier où elles étaient. Parce que même dans des quartiers qui paraissaient les plus structurés, comme le 16e, quartier résidentiel, il y avait des coins où on ne savait plus où on était, ou même dans le 15e, je me souviens, il y avait une caserne de cavalerie avec une place toujours vide. Donc, on ne savait plus très bien. Ça ne correspondait pas au quartier ou à l'arrondissement dans lequel c'était. Et on finissait par ne plus savoir où on était. Et donc, on avait l'impression que c'était des zones un peu comme des zones franches, en fait. Alors, j'ai employé le terme zone neutre, mais. Et plus j'y pense, plus c'était peut-être des endroits où inconsciemment je me réfugiais, parce que c'était une époque où quand on avait entre 18 et 21 ans, puisque la majorité était à 21 ans, on était un peu dans des situations de clandestin toujours, parce que enfin, on n'avait pas le droit de rien faire et tout. Donc on était amené à se retrouver dans des zones un peu où on sentait une sorte où personne ne pouvait vous. On était sûr que personne ne viendrait vous demander des comptes, en fait.
Vous parliez de refuge, de se réfugier. Moins on a d'ancrage et plus on a besoin de refuge. Et vos personnages sont tous comme ça.
Oui, ils sont un peu à l'image que je ressens, enfin l'image, ils sont. Oui, à l'image, enfin à ce que je ressentais quand j'avais 17 ans, oui, de sentir un total manque de centre de gravité, c'est-à-dire pas de texture solide familiale, ni le fait de poursuivre des études, tout ça. Alors, ce manque de centre de gravité, peut-être qu'inconsciemment, oui, je l'ai dit, les personnages dont je parle sont tous un peu. On sent qu'ils n'ont pas de centre de gravité, en fait.
Vous écrivez, Patrick Modiano, que la vie, c'est comme un grand terrain vague, sans poteau indicateur.
Oui, c'est parce que évidemment, dans ce roman, c'est des gens qui. Oui, de très jeunes, enfin de 20. Et donc, je me souviens, oui, je sentais ce manque de repères et. qu'il n'y avait pas de... Et donc, c'est pour ça finalement que j'avais l'impression que la littérature est venue très vite pour moi comme une sorte de centre de repère, de centre de gravité dans cette espèce de dérive générale que j'éprouvais, en fait. C'était...
Cette dérive-là, on est dans les années
Oui.
60, celle dont vous parlez, vous pensez que des jeunes aujourd'hui peuvent la ressentir peut-être d'une autre manière ou peut-être aussi de la même façon après tout?
Oui, parce que quand je pensais à ces personnages ou cette fille dont le terme héroïne de mon livre, le terme héroïne n'est pas tout à fait approprié, mais en fait, je pensais bien sûr à certaines personnes que j'avais côtoyées ou croisées dans ma propre jeunesse, mais je pensais aussi à des personnes que j'avais observées quand j'étais enfant, des gens de 20 ans que j'avais, et aussi à des gens que j'observe maintenant qui ont 20 ans, et j'ai l'impression, et tout ce, comment dirais-je, tout se superpose, et j'ai l'impression que je retrouve, par exemple, en observant certaines jeunes de maintenant, ils me rappellent bizarrement certains jeunes que j'observais enfant dans les années 50. Des jeunes aussi de ma propre génération, et tout finit par se superposer. Finalement, ils se ressemblent tous, peu importe les époques différentes, il y a une sorte de superposition, de ressemblance entre toutes ces différentes personnes à différentes époques. C'est les mêmes gens, en fait. Oui, évidemment, il y a des choses. Mais ils ont quelquefois les mêmes gestes, en fait, les mêmes. Il n'y a pas tellement, je vois pas tellement de différence entre ces différentes jeunesses à des moments successifs de 50, les années 50, 60, les années 2000. Je vois pas tellement la différence qu'il y a.
Vous observez beaucoup et souvent plutôt de loin, plutôt, je disais en commençant cette interview, vos personnages sont pris plutôt de biais.
Oui.
Vous auriez pu être photographe?
Oui, parce que souvent je vois chez certains photographes, ou tout au moins j'imagine qu'ils essayent de trouver le meilleur angle de prise de vue pour mettre en valeur j'allais dire, leur modèle ou la personne qui photographie. Et donc ils sont obligés, évidemment, à une certaine distance. Et en fait, oui, parce que en fait, c'est une démarche que j'ai l'impression que j'essaye de pas prendre j'allais dire, le modèle comme un photographe, d'une manière trop frontale, c'est-à-dire parce que j'essaye de le mettre en valeur, c'est-à-dire que je trouve que les gens, enfin, il y a toujours un mystère chez quelqu'un, même quand il a l'air, quand on le voit tous les jours, ou quand, alors. C'est peut-être un angle de vue où ce mystère va réapparaître, enfin, où je vais essayer de lui rendre le mystère qu'il a et qui n'apparaît peut-être pas à première vue. Et donc, c'est vrai que ça peut être aussi un travail de photographe, parce que les photographes, au fond, souvent, ils mettent en valeur des visages, ils essayent de trouver ce qui peut le plus mettre en valeur un visage, le plus lui donner une sorte de mystère aussi, et c'est une démarche, moi, enfin, j'ai l'impression que c'est la même démarche que j'ai en écrivant.
Même les choses les plus
Oui.
banales deviennent des mystères avec vous. J'ai lu une interview de votre femme Dominique qui dit « À force d'imaginer des mystères, ils deviennent réalité ». Elle parle évidemment de la façon dont vous traitez le mystère.
Oui, parce que quand on les choses les plus qui vous paraissent les plus quotidiennes, ou les rues que vous traversez chaque jour, ou les visages qui paraissent les comme ça qui reviennent, il suffit de les observer d'une manière presque hypnotique, et ils deviennent, il y a une espèce de surréalité. C'est un peu quand vous rêvez. Quelquefois, il vous arrive de rêver aux rues que vous traversez tous les jours, aux endroits qui vous sont complètement quotidiens. Et dans le rêve, quand vous vous réveillez, vous dites, ça vous semble insolite. Toutes ces rues que pourtant vous prenez tous les jours, si vous rêvez à ces endroits, à telle rue que vous prenez toujours, après au réveil, cette rue a pris une espèce de côté insolite qui vous déroute un peu. Et en fait, cet insolite ou ce mystère, il est certainement intrinsèque à la rue ou au visage. Donc, c'est pour essayer de retrouver cette... Et ça, évidemment, on peut l'obtenir. Il faut fixer... Oui, c'est presque d'une manière hypnotique de fixer presque très longtemps quelque chose qui vous semble quotidien et vous arrivez petit à petit, il y a une sorte de mystère qui effleure. Et c'est ça que j'essaye de retrouver quand j'écris.
Livre après livre, comme si la pensée se développait, le mystère se développait. C'est un peu toujours le même champ d'un livre à l'autre.
C'est toujours un peu le... À vrai dire, j'ai toujours un peu... Oui, c'est un peu le même livre. Presque inconsciemment, quelquefois, je répète même des choses sans m'en apercevoir qui étaient déjà dans des livres précédents. Alors, je les répète en les développant ou en les... Ou alors, il y a des mêmes noms qui réapparaissent. C'est comme une sorte de répétition, de rectification. Et c'est une démarche assez particulière et qui est liée à notre époque aussi, parce qu'évidemment, au 19e siècle ou au début du siècle, les romanciers avaient une vision beaucoup plus structurée. Ils écrivaient une œuvre, c'est-à-dire, et ils essayaient de structurer, c'est ce qu'ils appelaient une œuvre, d'une manière très presque comme des cathédrales, tout ça. Alors que maintenant, évidemment, c'est une époque où on est condamné à des choses discontinues, à des efforts un peu discontinus, à des bribes, tout ça. Alors j'ai l'impression que j'écris toujours le même livre par bribes, en fait, par des répétitions, par des redites, ou des... C'est un peu le même livre... c'est des bribes, en fait, c'est des éléments discontinus, mais ça fait partie de la même du même livre.
Elle vous plaît, notre époque?
C'est-à-dire, on peut, c'est compliqué parce qu'on est prisonnier de son époque. Je me suis aperçu que si j'étais, ce qui est étrange, c'est que j'aurais pas écrit ces livres si j'étais pas né comme je suis né en 45. Et d'ailleurs, je me dis toujours que si c'était pas tombé sur moi, ce serait quelqu'un d'autre né en 45 avec tout cette qui les aurait écrits. On est prisonnier de son époque. Tout ce qu'on écrit est quand même lié d'une manière très étroite à son époque, même si les livres ne font pas penser de manière immédiate à l'époque, mais on est prisonnier de ce qu'il y a dans l'air du temps, dans ce qui a précédé juste votre naissance, donc on est vraiment, on est condamné à appartenir à son époque, en fait. Alors évidemment, on peut avoir des nostalgies, on peut regretter, par exemple, moi je regrette de pas, j'ai toujours été fasciné par les romanciers du 19e, les romanciers anglais ou Balzac, c'était une époque où les choses étaient plus lentes, alors on pouvait écrire une œuvre comme ça. Mais c'est maintenant, évidemment, c'est plus difficile, alors on ne peut faire que des bribes. En fait. Mais en même temps, on est condamné à être de son époque, en fait.
Comment est-ce que le temps passe pour vous? Parce que dans vos livres... Le passé et le présent sont indissociables, mais il n'y a pas la nostalgie du passé au détriment du présent. Vous, est-ce que vous avez changé avec les années? Vous écrivez aussi cette phrase que j'ai notée. On ne vieillit pas avec les années qui passent. Beaucoup de gens et de choses finissent par vous apparaître si comiques et si dérisoires que vous leur jetez un regard d'enfant.
Oui, là, c'était un personnage du livre qui disait ça. Oui, inconsciemment, c'est vrai que... Il y a une sorte j'éprouve pas tellement de... Bien sûr, il y a toujours une recherche du temps perdu, tout ça. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que dans le temps tel que je l'éprouve, c'est une sorte de... Comment dirais-je c'est comme une superposition du présent, du passé, et ça devient presque transparent, et c'est... Ça devient presque intemporel. Enfin, c'est une sensation qui n'est pas vraiment la nostalgie, parce que la nostalgie, évidemment, c'est plutôt une sensation de... Le temps, c'est comme si on sentait l'odeur du temps, c'est-à-dire on peut, c'est une, comme si le présent et le passé se mélangeaient, et même qu'il y ait un appel, une sorte d'appel vers l'avenir. Enfin, c'est une impression qui est... que j'ai quelquefois, et à mon avis, je sens l'odeur du temps, là, quand tout se superpose, plus que une sorte de retour vers le passé, ou un côté rétrospectif, c'est plus une sorte de superposition du passé, du présent, de cet appel de l'avenir. Tout ça est très... Ça, je le sens profondément, mais le problème, c'est que c'est très difficile de le traduire en écrivant. Quelquefois, j'ai l'impression que je n'arrive pas à traduire vraiment cette impression, mais c'est l'impression forte que j'ai sur le temps, en fait. C'est une impression presque, à la limite, si vous voulez, d'intemporalité, parce que tout se mélange. Ça devient transparent, c'est très difficile à décrire, c'est presque une sensation de comme une et c'est très difficile à traduire dans un roman. Enfin, je suis toujours assez j'arrive pas vraiment à le traduire, peut-être d'une manière telle que je le ressens, une sorte d'intemporalité, de transparence du temps.
Vous n'aimez pas trop, mais peut-être je me trompe, l'introspection. Est-ce que, lorsque vous écrivez, vous arrivez à vous oublier ?
Oui, parce que j'ai jamais pu... j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le... J'ai beaucoup lu, d'ailleurs, quand j'étais très jeune, tout le roman français, ce qu'on appelait le roman français classique, Princesse de Clèves, c'est-à-dire l'analyse psychologique, et puis aussi certaines choses d'introspection... moi, c'est une chose que je suis incapable de pratiquer. Parce qu'évidemment, l'introspection, ça suppose une sorte de regard insistant sur soi-même. Et j'ai besoin, pour écrire, de lieux très précis, de décors, de tout ce qui est un peu ce qui paraîtrait extérieur à des romanciers uniquement qui pratiquent l'analyse psychologique ou la... introspection, et j'ai toujours eu alors c'était le mouvement inverse, j'essayais toujours de m'identifier à... j'essayais de me fondre dans une sorte de... c'était plutôt un... je savais pas très bien moi-même qui j'étais, j'essayais de me fondre dans des décors ou dans des gens que j'observais, de m'identifier presque. C'était pas du tout une attitude introspective qui consiste évidemment à se fouiller soi-même. C'est une chose, oui, qui m'est étrangère. En fait.
Sauf peut-être dans un livre, un petit peu, dans Pédigré.
Oui, c'est-à-dire que dans un Pédigré, ce qui est bizarre, c'est une autobiographie, mais en même temps, je parle de choses qui sont douloureuses, mais c'est difficile à dire. C'est-à-dire, je parle uniquement de choses qui me sont étrangères. Évidemment, c'est tragique et c'est horrible de parler, parce que je parle de mes parents, par exemple, ou de choses, évidemment, qui m'ont concerné de près, mais qui me sont devenues totalement étrangères et dont j'avais l'impression qu'elles m'étaient imposées et que ça ne me définissait pas moi-même. Alors donc, c'est une autobiographie très particulière parce que c'est une autobiographie en creux, c'est-à-dire c'est comme si je voulais me débarrasser de corps étrangers, en fait. Et quand j'écrivais ça, j'avais un très profond regret de ne pas pouvoir écrire une autobiographie, comment dirais-je, où j'aurais été en accord, comme ce que j'avais souvent préféré chez les gens qui pratiquaient la biographie, comme par exemple Nabokov, quand il parle de son enfance, il est en pleine harmonie avec cette enfance, avec ses parents, avec son enfance. Et donc, il y a une sorte de ton élégiaque qui, moi, me bouleversait beaucoup quand je lisais son autobiographie. Tandis que moi, j'avais l'impression que le travail autobiographique, que le seul auquel je pouvais me livrer, c'était une sorte de travail autobiographique de rejet, comme si je voulais me débarrasser une fois pour toutes de choses qui m'étaient étrangères. Donc, c'est comme ça prenait le ton d'une sorte de choses douloureuses, mais traitées comme un constat, parce que finalement, c'était des choses qui avaient été très douloureuses pour moi, mais qui, sauf la seule chose qui me touchait de près, c'était le frère que j'avais eu et que j'avais perdu. Mais en fait, il n'y a que deux lignes sur lui, parce que je ne voulais pas parler de cette chose qui me concernait vraiment. Tout ce dont je parle dans un pédigré, c'est des choses qui m'ont été imposées, en fait, et dont je voulais me débarrasser une fois pour toutes et dans lesquelles je ne me reconnaissais pas vraiment. Et ce qui était terrible, c'est de pratiquer ce genre autobiographique, mais d'une manière comme un rejet, que ça ne soit pas harmonieux, comme dans certaines autobiographies que j'avais admirées chez d'autres écrivains.
Alors j'imagine que vous fréquentez beaucoup les librairies. Nous sommes ici dans votre bibliothèque qui est une mini-librairie à elle toute seule, qui est magnifique, il y a des livres jusqu'au plafond. Dans ce livre, dans le Café de la Jeunesse Perdue, il y a deux librairies. Il y en a une boulevard de Clichy, il y en a une boulevard Saint-Germain, qui sont là aussi comme des refuges à certains moments.
C'est-à-dire que ça c'est des souvenirs, enfin je me suis un peu... C'est plus des souvenirs qui m'ont aidé à écrire ces détails dans ce livre, parce que, évidemment, à partir de 17 ans, quand je suis revenu à Paris, les librairies étaient des refuges pour moi. Et au point que, oui, je restais quelquefois très longtemps dans les librairies. Les libraires, ils étaient gentils, ils acceptaient que des gens de mon âge. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que, je me souviens de toutes ces librairies où j'allais et je m'aperçois à quel point, en l'espace de maintenant plus de 30-40 ans, elles ont disparu. Par exemple, les deux librairies dont je parle dans mon livre, l'une était une librairie qui s'appelait la librairie Vega, où les livres étaient plutôt ésotériques et tout ça, qui était boulevard Saint-Germain, ont malheureusement été remplacés par une société de vêtements qui est donc, je me souviens, c'était donc à l'angle de la rue des Saints-Pères et de la boulevard Saint-Germain. C'est maintenant une entreprise de prêt-à-porter. Et la librairie de Clichy dont je parle et qui était ouverte juste très tard, la librairie Mattei, elle n'existe plus. Et alors évidemment, quand je pense à ce quartier du 6e arrondissement, c'est terrible parce que là, ou de Saint-Michel, toutes ces librairies où j'allais, à Saint-Michel, la librairie Picard, les presses universitaires de France, il y avait encore plusieurs librairies, boulevard Saint-Germain. Et c'est terrible de penser à toutes ces librairies, surtout dans ce quartier, qui ont disparu, le divan, et ces librairies qui étaient pour moi des refuges. Et justement, je pensais à des gens de 20 ans maintenant. Enfin, maintenant, peut-être, c'est d'autres quartiers. Ils sont dans d'autres quartiers où il y a encore des librairies, heureusement. Mais dans le 6e, c'est terrible de penser à toutes ces librairies qui ont disparu. Et pour moi, une librairie, c'est un refuge. En fait, c'est quelque chose de moi, c'était comme un refuge et c'était comme un oxygène, en fait, quelquefois dans des moments de solitude ou d'incertitude.
Vous continuez à y aller quand même de temps en temps aujourd'hui? Où est-ce que vous achetez vos livres?
Ça dépend des quartiers où je me trouvais. Je continue à y aller. Il y en a. C'est quelque. C'est un espèce de d'habitude que j'ai pris de mon adolescence. Oui, je reste souvent longtemps dans certaines librairies. Je retrouve. C'est la chose qui me reste cette période de mon adolescence. C'est habitude que j'avais justement de rester longtemps dans les librairies. Et je crois que je fais maintenant la même chose, en fait. Oui, ce sont des endroits magiques. Ça fait partie de la magie de Paris aussi, les librairies. Pour moi, oui, c'est magique. Enfin, c'est très bizarre parce que un jour, je m'étais amusé à recenser toutes les librairies que j'avais connues dans tous les arrondissements de Paris. Oui, j'arrivais à des centaines de librairies. Alors évidemment, c'est ce que je vous disais avant. Évidemment, ce qui est terrible, c'est que beaucoup ont disparu, mais j'ai une mémoire photographique de toutes ces librairies que j'ai. Oui, j'avais fait tout le recensement de toutes ces librairies et j'avais une mémoire. J'entendais même dans le roman, quand je parle de c'est une librairie, boulevard de Clichy, je me souvenais même de la voix des libraires, enfin, c'est des endroits qui m'avaient tellement marqué que. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce que quand j'ai commencé à écrire, c'est très bizarre parce que c'était pas tellement le fait d'être publié que je trouvais invraisemblable, c'était le fait de voir un jour un livre de moi dans une librairie. Parce que c'est ça qui m'avait le plus. Qui me paraissait comme dans un rêve, en fait, plus que le fait d'être imprimé ou de. C'est d'être dans ces librairies, qu'un livre, de le voir dans une vitrine, dans ces lieux où j'avais tellement. Qui étaient plus que des refuges, qui étaient des. Oui, j'arrive pas. C'est le mot magique, en fait, Et souvent, il m'arrivait, oui, de faire comme des espèces de périples de librairie en librairie, d'après les quartiers, enfin, de faire toute une. À travers les arrondissements de Paris, oui, j'avais même envie à un moment d'écrire une sorte de trajet que à travers tous les arrondissements de Paris, comme des étapes, de parler de toutes les librairies que j'avais connues. Ça me hante, ça, j'avais envie de faire. Ça me revient de faire cette espèce de déambulation comme ça que je faisais depuis les années 60 ou même. De décrire toute cette déambulation en prenant les arrondissements et toutes les librairies qu'il y avait dans les arrondissements différents de Paris. Un Paris qui était à côté, pas souterrain, mais un Paris parallèle. Enfin, il y a un roman de Jules Romain, enfin, je sais plus, c'est dans les hommes. Oui, il imagine qu'il y ait des appartements qui se. C'est-à-dire qu'il y a tout un trajet qu'on peut faire à travers certains appartements, en passant par des caves, en remontant, et on pourrait arriver à traverser tout Paris. Et moi, j'imagine aussi, quand je pense à tous ces librairies successives où j'allais, à une sorte de traversée de Paris, oui, en allant de librairie en librairie, une sorte de Paris parallèle. Un Paris qui a été préservé de tout ce qui le, de tous les, comment dirais-je, de tous les parasites, de tout ce qui l'abîme en fait. Parce qu'en fait, ce qui est terrible, par exemple, dans ce 6e arrondissement, c'est que il est devenu un peu inhumain et je ne le reconnais plus à cause des librairies qui n'existent plus en fait.
Vous pourriez l'écrire, ce livre.
Oui, parce qu'évidemment, ça n'en finit pas, parce que je me souviens, oui, des libraires, oui, des tas de livres, enfin, mystérieuses aussi, parce qu'évidemment, la découverte de Paris aussi, que je faisais quand j'étais plus enfant même, c'était lié, évidemment, il y avait toujours une librairie, par exemple, dans le passage, oui, dans ces passages qui du côté du Palais Royal, tout ça. Il y avait une librairie. Oui, c'était comme des. Ça fait partie du mystère de Paris. Enfin, elles font partie du mystère, de ce qu'on peut appeler les mystères de Paris, en fait. Puis il y a toujours eu, chez les libraires, il y a toujours eu personnages très pittoresques, tout ça. Enfin, c'était un monde qui me... La seule chose triste, évidemment, c'est que je comprends. Enfin, ces librairies, beaucoup ont disparu. Enfin, je trouve ça absurde parce que la ville, c'est quand il y a pas, enfin, quand les libraires ne sont plus là, évidemment, la ville devient totalement inhumaine, en fait. Surtout quand ça a été remplacé par ces magasins rutilants de vêtements, enfin, dans le, il y en a dans le sixième. Enfin, on a l'impression chaque fois comme si tout a été arraché, enfin, que tout ce qui faisait l'âme du quartier avait été arraché comme si tout venait empaillé. Enfin, et en fait, je m'aperçois, c'est la disparition de ces librairies qui rend le quartier inodore, en fait. D'ailleurs, je crois que dans mes livres, il y a toujours comme un leitmotiv, la librairie et le libraire revient comme un leitmotiv. Alors là, c'est cette fille qui se réfugie dans ces librairies, mais d'autres livres aussi, il y a toujours un libraire, enfin... C'est des sensations, c'est aussi certaines librairies, c'est aussi à certaines heures de la journée, enfin, c'est des souvenirs, c'est toujours aux heures un peu où la nuit, où il fait nuit assez tôt l'hiver. Pour moi, c'est lié à ça aussi. Enfin, c'est bizarre à dire, c'est un refuge et c'est lié à certaines heures en fin d'après-midi d'hiver où la nuit est déjà tombée. C'est peut-être lié aussi aux périodes où on est obligé encore d'aller au lycée, ou enfin les rares moments où j'étais au lycée à Paris, où on revient et on n'a pas envie de rentrer chez soi, et donc on va dans une librairie. Alors c'est lié à la nuit, enfin à une nuit qui tombe avec la vitrine éclairée, tout ça. Pour moi, c'est lié à ça aussi. L'entrée dans les librairies, le refuge des librairies, cette heure disons crépusculaire, mais d'hiver, oui, c'est lié à ça aussi.
Merci beaucoup, Patrick Modiano.
Merci, Patricia Martin. Je suis très heureux qu'on ait pu parler.